Catherine Nopp, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'origine du musée de Marimont ?
Bien sûr, le musée de Marimont est en fait né d'une collection privée. La collection privée de Raoul Waroquet, qui était un industriel. Il était propriétaire de plusieurs charbonnages dans la région. C'était aussi un philanthrope, un mécène, un ami des arts, et il l'avait réuni dans son château de Marimont un grand nombre d'objets d'art, à la suite d'ailleurs de sa famille qui collectionnait également les tableaux, les dentelles, les dinanderies. Mais lui, Raoul Waroquet, donc, s'est intéressé à d'autres facettes de l'histoire de l'art et des objets, et a acquis notamment des livres, des reliures précieuses, des antiquités grecques et romanes, égyptiennes aussi, des porcelaines de Tournai et puis de l'art d'Extrême-Orient.
Alors justement, pourquoi il a collectionné l'art d'Extrême-Orient ? Qu'est-ce qui lui a fait s'intéresser à cet art ?
C'est une question que je me suis posée également, et je crois que la réponse est en plusieurs étapes. Parce que en grand bourgeois fin de siècle, Raoul Waroquet a naturellement, je dirais, collectionné des porcelaines chinoises d'exportation, donc que l'on appelait des familles vertes ou des familles roses, qui étaient des porcelaines qui avaient rejoint l'Europe déjà depuis le XVIIIe siècle, le début du XVIIIe siècle. Et dans les grandes demeures, il y avait toujours des porcelaines qui étaient disposées en ensemble sur les cheminées, ou bien qui étaient posées isolément sur un petit meuble d'angle. Donc c'était des objets décoratifs. Et il a en cela suivi la tradition familiale. Il a rassemblé des porcelaines très colorées. Il s'intéressait surtout à ces objets décorés d'émaux, extrêmement lumineux. Et c'est vraisemblablement en achetant des porcelaines de Tournai auprès d'antiquaires bruxellois et parisiens qu'il a rencontré un peu par hasard la porcelaine de Chine. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est son voyage en Chine qui lui a permis d'acheter un grand nombre d'objets.
Alors, quel genre de personnage était ce Raoul Waroquet ?
Un personnage très complexe, parce que c'était un industriel, c'était quelqu'un qui avait le sens des affaires, c'est quelqu'un qui avait certainement un sens social aussi, puisque il a patronné la construction de crèches, de dispensaires, d'écoles, mais c'est aussi quelqu'un qui comptait ses sous très fermement, et ça on le voit également dans les archives, dans son courrier. Il ne laissait rien passer, ni d'ailleurs à ses employés ou à ses ouvriers. Donc voilà, il a continué d'amasser une fortune qui était déjà considérable quand il a pris la direction des affaires familiales. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais marié et qui n'a pas eu de descendance connue. Et donc, c'est ainsi que l'État belge a hérité de son grand domaine de Marimont, du château de Marimont, qui a malheureusement brûlé depuis, et aussi de la totalité des collections qui se trouvaient dans le château. Mais Raoul Waroquet, déjà de son vivant, avait souhaité rendre ses collections accessibles. Il voulait certainement faire connaître au public son idée de la beauté, son idée de l'esthétique. Et donc, il avait vraiment à cœur de faire de son château de Marimont un musée.
Quelles sont les pièces dominantes de sa collection chinoise ?
De la collection chinoise. Il y a une pièce qui me vient à l'esprit parce qu'elle est tout à fait monumentale. Il y a une stèle en pierre. Donc, c'est une stèle qui est supportée par une tortue. La stèle elle-même est en forme de parallélépipède et couronnée de dragons. C'est un document historique important. Elle date de la 30e année du règne de l'empereur Wanli des Ming, ce qui correspond à l'année 1604. Et c'est une stèle qui relate la restauration d'un édifice bouddhique par des dévots qui se sont cotisés pour relever ce temple qui était en piteux état. Et on sait par différents courriers, que c'est une stèle qui a été découverte dans la cour d'une maison abandonnée dans le nord-ouest de Pékin. Donc c'est dans cet endroit-là que devait vraisemblablement se trouver ce temple. Ça, c'est une pièce importante, mais il y a aussi toutes ces porcelaines du XVIIIe siècle, qu'on appelle donc les familles vertes, qui forment un ensemble très beau. Il y a aussi ce que l'on appelle traditionnellement les flacons à priser, donc qui sont des flacons pour priser le tabac. Il y en a à peu près 450 dans les collections d'Oiroquet. Certains sont en jadéite, d'autres en ambre ou en porcelaine ou en onyx. Enfin, il y a des matériaux extrêmement précieux. Et donc là, ce sont des objets qu'il a achetés à Pékin durant son bref séjour en Chine. Qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre ? Certains émaux cloisonnés sont très beaux aussi. Donc, dans la collection d'Oiroquet, on trouve essentiellement des objets qui datent des deux dernières dynasties chinoises, les Ming et les Qing, donc entre le 14e et la fin du 19e siècle. C'était ce qui était le mieux connu, d'ailleurs, à l'époque de Oiroquet. Les grandes découvertes archéologiques ont eu lieu dans les années 1920-1930, et Oiroquet était déjà décédé à ce moment-là.
Alors, il est allé en Chine en 1910, il avait une mission. Quel était le but de cette mission ?
Il avait une double mission. Il avait une mission diplomatique et qui était d'annoncer à l'empereur, en fait le dernier empereur, mais qui était un tout petit enfant à ce moment-là et qui était représenté par le prince régent. Donc, annoncer à l'empereur le décès du roi Léopold II et l'avènement du roi Albert Ier. Et la face cachée de sa mission était une mission économique. C'était de visiter les charbonnages, les chemins de fer auxquels, à la construction desquels les Belges participaient, et d'essayer aussi d'obtenir pour la Belgique une concession dans la région de Tianjin, donc dans le nord de la Chine. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, c'était la dernière année de l'empire des Qing. Donc, puisqu'il est allé en 1910, fin 1911, il y a eu la révolution, la République, et puis en Europe, la Première Guerre mondiale. Donc, tous ces projets-là sont restés inachevés.
Est-ce qu'il a rencontré Puyi?
Il était enfant donc à ce moment-là, mais il a été reçu en audience par le régent dans un palais de la cité interdite, de la sixième cour de la cité interdite, et c'est là donc qu'a eu lieu cette audience qui a été relatée par un des accompagnateurs de Oiroquet, qui était le lieutenant Pontus, qui a fait une relation assez complète de ce voyage, mené d'ailleurs tambour battant. Oiroquet et sa suite sont allés en Chine par le Transsibérien, donc sont allés dans la future Mandchourie, sont redescendus vers Pékin. De Pékin, ils sont allés directement en direction du fleuve bleu, vers Hankou. Ils ont embarqué sur le fleuve bleu jusqu'à Shanghai, et de là, Oiroquet est parti pour le Japon.
C'est une sacrée expédition, il a mis combien de temps ?
En Chine, il n'est resté que 3 semaines, donc très court, et il a fait énormément d'acquisitions auprès d'antiquaires de Pékin pendant ces 3 courtes semaines. Il y en a d'ailleurs une que j'ai oublié de vous signaler, qui est celle de fragments d'os gravés, d'os oraculaires, qu'il a acheté sans doute pour une croûte de pain, parce que personne à l'époque ne savait que les petits caractères gravés sur ces os étaient en fait les ancêtres de l'écriture chinoise actuelle, et que ces os avaient une valeur historique considérable. Mais en Chine, on débutait seulement à ce moment-là l'identification de cette écriture. Donc là aussi, Oiroquet est passé à côté de la montre en or et n'a jamais su ce qui était écrit sur ces os. Mais là, j'ai oublié votre question.
La question était qu'en fait, il était resté, combien de temps il était resté ?
La totalité du voyage, il est parti de Marimont en avril et il y est revenu en septembre, ce qui finalement est relativement court pour un voyage pareil, puisque donc il a pris le train jusqu'à Moscou, puis jusqu'à Vladivostok, puis de là il est redescendu vers ce qui s'appelait alors Mukden, qui s'appelle maintenant Shenyang, en Chine, de là vers Pékin, donc Pékin, le fleuve bleu, Shanghai, puis le Japon, et puis revenu par bateau.
fait, il a profité d'une mission diplomatique pour rafler tout ce qu'il y avait à acheter. Alors, on a parlé de missions économiques, et puis, bon, ben, ça sonne tout à fait contemporain, les missions économiques en Chine. Alors, quand a commencé l'implantation de la Belgique en Chine? Ça s'est fait où et ça s'est fait quand?
Oh, cette implantation, bien, elle date du 19e siècle avec les ingénieurs belges qui sont allés dans les charbonnages du nord de la Chine, notamment Linchang, mais d'autres charbonnages aussi. Et c'est vrai que dans la région où nous sommes ici, dans le Hainaut, il y a encore pas mal de descendants de ces ingénieurs qui ont travaillé dans les mines chinoises. Mais il y a aussi des gens qui ont construit des ponts. Notamment un grand pont sur le fleuve Jaune a été construit par une équipe belge. Et les Belges ont également fourni des éléments très importants dans ce grand chemin de fer qui reliait Pékin à Hankou.
D'accord. Pas de concession à Shanghai?
Pas de concession directement à Shanghai.
Ni à Tianjin non plus d'ailleurs, puisqu'ils ont raté le coche.
Non, mais il y avait un consul belge à Shanghai qui a beaucoup aidé Wahoké.
Alors Marimont est aujourd'hui un lieu de recherche sur l'archéologie asiatique. Alors qu'est-ce qu'on y fait à Marimont?
Eh bien, nous travaillons bien sûr en fonction de nos collections. Donc, nos collections sont vraiment destinées, dévouées, je dirais, à la céramique chinoise. Donc, il y a un travail de recherche qui est fait régulièrement sur la céramique chinoise. Mais nous travaillons aussi beaucoup maintenant sur des projets, nous coordonnons des projets d'archéologie sous-marine.
Ah oui, bah alors à propos d'archéologie sous-marine, c'est le moment de vous poser la question sur cette épave qui a été fouillée en 2004-2005 en mer de Java. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette épave?
Bien, il semble que le monde entier se soit donné rendez-vous dans cette épave, qui est une épave qui date de l'extrême fin du 10e siècle probablement, ou des toutes premières années du 11e peut-être. La cargaison est évaluée à 500 000 objets. Donc ce qui en fait l'une des plus grandes épaves et plus anciennes aussi épaves connues à ce jour dans la mer de Java. Et il y avait une cargaison très très importante de céramique chinoise, mais aussi d'autres céramiques probablement en provenance de fours de Thaïlande. Il y avait aussi des bronzes Khmer. Il y avait des verres, aussi une cargaison d'accompagnement formée de verres qui proviennent des pays musulmans. Donc il y avait à peu près 150 verres qui venaient sans doute d'Iran, mais aussi de Syrie et même d'Égypte. Il y avait des bijoux qui venaient vraisemblablement de Sumatra, des objets en or, des rubis, des perles. L'équipage était sans doute un équipage qui venait du sud de l'Inde, si on peut en juger d'après les ustensiles de cuisine qu'on a trouvés à bord. On a aussi trouvé à bord l'une ou l'autre inscription des cachets avec des inscriptions en arabe, donc qui témoignent aussi donc de la présence sans doute de marchands arabes à bord. On a trouvé des choses très, très émouvantes. On a trouvé les dés avec lesquels l'équipage jouait, vraisemblablement, une flûte droite aussi qui devait avoir appartenu à l'un ou l'autre membre de l'équipage. Le bateau lui-même était un bateau de type austronésien, donc à planches cousues. Ce n'était pas une jonque. Ce n'était pas un navire chinois, c'était un navire qui avait été construit soit dans le sud du Vietnam ou en Malaisie ou en Indonésie et qui transportait donc une cargaison d'entrepôt, une cargaison qui avait été réassemblée dans un grand lieu portuaire et qui devait être distribuée vraisemblablement en Indonésie. J'ai rencontré récemment des collègues français du CNRS, notamment Claude Guillot, qui a dirigé la fouille d'un grand site de commerce, un grand établissement commercial du nord-ouest de Sumatra, qui s'appelait Le Boutois. Et dans ce site, qui est daté, je pense, de la fin du Xe jusqu'au XIIe siècle, donc 200 ans d'occupation, eh bien, il y a des objets tout à fait semblables à ceux de l'épave.
Si on connaît le nom du bateau et la date du naufrage?
Non, on ne connaît malheureusement pas le nom du bateau, mais traditionnellement, dans ces grandes fouilles d'archéologie sous-marine, on donne à l'épave le nom de la ville la plus proche. Ici, c'était un peu compliqué parce qu'on est en pleine mer de Java, donc à 200 kilomètres au nord de la ville de Cirebon. La ville se trouve donc sur la côte nord de Java. Et donc, cette épave sera connue sous le nom de Cirebon. Bon.
Alors, est-ce que ça veut dire que les pièces de ce bateau se trouvent à Marimont ou vont se trouver à Marimont?
Non. Malheureusement, les pièces, en tout cas la totalité, ne pourra certainement pas venir à Marimont. Comme c'est une fouille qui a eu lieu dans les eaux territoriales indonésiennes, la cargaison appartient de droit à l'Indonésie, qui souhaite la mettre en vente. Mais heureusement, nous avons à Marimont toutes les données de la fouille, donc toutes les photos, tous les dessins, tous les plans de la fouille, et nous avons également des échantillons de certaines catégories d'objets qui se trouvaient dans cette cargaison. Donc des échantillons de céramique chinoise, de bronze, des monnaies, des inscriptions, etc. Ce qui va nous permettre donc de coordonner l'étude scientifique de cette cargaison. Comme je vous l'ai dit, le monde entier était dans cette épave. Donc c'est une tâche qui doit... L'étude de la cargaison est une tâche qui doit se mener en collaboration avec de nombreux chercheurs et nous commençons à former une équipe et nous allons mettre sur pied un site internet interactif qui sera consacré donc à l'étude de cette cargaison où nous allons présenter au fur et à mesure de leur traitement, je dirais, les données des différentes catégories de la cargaison et essayer d'y intéresser la communauté scientifique pour obtenir un maximum d'avis, de remarques, de suggestions permettant l'étude de cette cargaison.
Mais vous avez une politique d'acquisition. On peut imaginer qu'un jour vous achèteriez quelques pièces de cette collection?
Oui, tout à fait. Si l'Indonésie acceptait de vendre les pièces séparément. Pour l'instant, le gouvernement indonésien souhaite vendre la cargaison dans son ensemble. Donc, même si la totalité des pièces n'ont pas été remontées, toutes les pièces ont été inventoriées, numérotées, mais une partie de la cargaison, donc les pièces les plus endommagées, sont restées au fond. Mais il en reste quand même plus de 200 000. On ne peut pas acheter 200 000 objets. Ça, c'est pas possible. Donc, ce sera vraisemblablement la Chine ou un pays du Golfe qui vont acheter la cargaison, l'ensemble de la cargaison.
Quelle est la dernière pièce chinoise qui est rentrée dans votre collection?
Ah, la dernière pièce chinoise, c'est toujours la préférée, évidemment. C'est une petite image bouddhique qui date des années 534-535. Et qui représente donc un Bouddha debout. Une main faisait le geste du don et l'autre le geste de l'absence de crainte. C'est l'iconographie habituelle des plus anciennes images du Bouddha. Et ce Bouddha est très légèrement souriant, mais il a les yeux mi-clos, un sourire très très intérieur. Il est en pleine méditation, en tout cas. Et il est entouré de deux bodhisattvas, donc de deux êtres d'éveil, mais qui sont non pas en ronde bosse, non pas en haut relief, mais qui sont gravés sur le dos de la pierre et qui sont des silhouettes longilignes tout à fait superbes d'une grande délicatesse. Et cette pièce était autrefois polychrome. Le restaurateur qui a dégagé cette œuvre a fait aussi la fixation de la polychromie et donc autrefois elle se présentait dans des couleurs extrêmement vives avec du rouge, du vert et de l'or aussi puisque la totalité des chairs du Bouddha était dorée. Ce qui est tout à fait typique, je dirais, dans l'iconologie bouddhique. Le grand homme, le Bouddha, a une peau rayonnante comme de l'or. Et donc, les artistes badigeonnaient alors de l'or sur toutes les chairs visibles. Et c'est une pièce qui vient de l'est de la Chine, de la province de Shandong, où il y a eu des ateliers de sculpteurs de très, très grand niveau, donc dans la première moitié du VIe siècle.
Catherine Nob, merci.